Bienvenue pour une nouvelle émission de Fenêtre sur le Monde, réalisée en partenariat avec la revue Conflit. Vous pouvez retrouver actuellement en kiosque un numéro de Conflit consacré à l'Afrique de l'Ouest et aux liens entre les narcotrafiquants et les djihadistes, ainsi que notre numéro spécial consacré à la géopolitique de la santé. Nous allons rester justement en Afrique de l'Ouest avec la question malienne. Le président de la République a évoqué il y a quelques semaines la fin de l'opération Barkhane, qui probablement se transformera en une nouvelle opération avec un nouveau nom et peut-être la présence autrement des troupes françaises dans la région africaine. Il n'empêche que cette Afrique de l'Ouest concerne au premier plan la France et l'Europe de par les dangers qu'elle peut représenter. Pour évoquer cette question de l'Afrique de l'Ouest et du Mali, je reçois aujourd'hui Nicolas Normand. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu ici. Vous êtes ancien ambassadeur, vous avez notamment été en poste au Mali et vous êtes chercheur associé à l'IRIS. Vous avez été en poste au Mali et donc vous avez pu voir comment était organisé ce pays. Et un des éléments peut-être qui est un facteur explicatif de beaucoup de choses, c'est le fait qu'il y a plusieurs peuples dans ce pays qui a du mal justement à être un pays. On n'est pas en cas dans un État-nation, comme on le connaît en France et en Europe. Et donc ça donne une approche différente quand la France veut intervenir ou quand la France doit régler ou aider à régler les problèmes qui peuvent s'y présenter.
Alors moi je ne partage pas tellement cette analyse. C'est vrai qu'il y a de nombreuses ethnies et de nombreuses cultures assez hétérogènes au Mali, comme dans toute la région du Sahel. Mais la région du Sahel est caractérisée par justement de très bonnes relations ou des relations historiques entre toutes ces ethnies, contrairement aux régions forestières africaines, où à cause de la géographie, les populations vivaient un peu isolées, un peu séparées les unes des autres. Le Sahel étant une zone, au contraire, d'échange, d'ouverture, il n'y avait pas traditionnellement de tensions ethniques au Mali. Et le Mali, en plus, est une vieille nation, en réalité, puisqu'il y a une succession d'empires depuis un peu plus de 1000 ans, n'est-ce pas? L'Empire du Ghana, l'Empire du Mali, l'Empire Songhai, et différents royaumes, Bambara, etc. Et au 19e siècle, il y a eu des djihads d'origine peule, il y en a eu 3 au Mali, qui ont aussi un peu unifié le pays d'une certaine manière, en tout cas sur le plan religieux, en diffusant l'islam qui n'était pas très répandu en réalité au Mali jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, les Maliens sont très fiers de cette histoire et ça forme une nation, en fait, plus qu'un État, en fait. La nation, contrairement à ce qui s'est passé en France ou dans des pays européens, la nation a précédé l'État. C'est pas l'État qui a construit une nation, puisque l'État est une chose récente, enfin l'État actuel. Il est postcolonial. Les frontières ne sont pas fondamentalement différentes des empires anciens. Alors, on soulève souvent cette question d'hétérogénéité ethnique au Mali entre le Nord et le Sud, n'est-ce pas, avec ce mouvement sécessionniste d'origine touareg qui a déchiré le Mali en 2012, puisque le Mali en 2012 s'est coupé en deux, le Nord ayant fait sécession à la suite de mouvements séparatistes qu'on appelle le MNLA et qui sont d'origine touareg. Alors, en réalité, il faut savoir que le Nord du Mali lui-même, le septentrion malien, il faut pas dire le Nord Mali, c'est une formulation qui déplaît aux Maliens, il faut dire le Nord du Mali. Ouais. Et le Nord du Mali est en majorité peuplé de sédentaires noirs, essentiellement des Songhai, mais aussi des Peuls qui sont semi-nomades. Et donc, les populations nomades de peau claire sont minoritaires dans le Nord du Mali. Et donc, le Nord du Mali ne forme pas une entité qui serait différente fondamentalement du Sud ou du Centre du Mali. Donc, et en plus, historiquement, le Nord du Mali a dépendu soit de l'Empire Songhai, soit d'autres entités étatiques ou pré-étatiques qui étaient plutôt vers le Sud ou dans le Sud du Nord, je dirais, la vallée du Niger. Voilà, donc il ne faut pas présenter, comme le font certains, le Mali comme un agrégat inconstitué de peuples désunis, pour reprendre une formule célèbre. Ce n'est pas le cas, il y a un tissu social. Ce qui s'est produit récemment néanmoins, et ça c'est très moderne, très récent, c'est des tensions interethniques qui sont apparues en effet, mais c'est un phénomène moderne et récent dont on pourrait parler, et qui est un peu lié à la question du changement climatique, de la surpopulation et aussi du djihadisme. Mais ces tensions interethniques sont tout à fait récente, je dirais, intervenue après 2012 ou 2015.
Un jour, on va revenir sur ces tensions et sur les causes. Mais avant cela, quelle analyse vous faites du rapport entre l'islam ou l'islamisme ensuite et les différentes ethnies, et notamment dans les combats qu'il y a, les affrontements qu'il y a aujourd'hui? Quel est le rapport de la part religieuse qui est liée à l'islamisme ou de la part uniquement ethnique qui est de confrontation de différents peuples?
Alors en fait, la question religieuse n'a rien à voir avec la question ethnique, c'est des problématiques complètement séparées. La rébellion, l'insurrection djihadiste qu'on observe au Mali, elle n'a pas une cause religieuse au départ, elle a une cause économique et sociale. Ce sont des populations qui ont été délaissées par l'État. L'État est absent de vastes territoires au Mali, et donc il se crée spontanément des groupes armés qui sont pas tous d'inspiration religieuse, loin de là. Et d'autre part, il y a une désespérance de la jeunesse sur le plan économique, sur le plan social. La démographie est très forte au Mali, donc beaucoup de jeunes sont arrivés récemment sur le marché du travail et vont continuer d'arriver sans que le développement du pays ne leur offre une perspective d'intégration économique. Donc ils sont en situation un peu désespérée. Donc ils sont à la recherche d'un emploi et d'une possibilité de faire quelque chose. Là-dessus, un certain nombre de meneurs djihadistes sont arrivés pour donner un encadrement idéologique et aussi donner des emplois et donner des salaires, et ont recruté donc des jeunes, recrutés de gré ou de force, parce que de gré dans la mesure où ces jeunes recherchaient un emploi, et de force aussi parce que s'ils n'acceptaient pas, ils étaient tués souvent, enfin ils n'avaient pas le choix. Voilà, alors ça c'est l'aspect insurrectionnel djihadiste. Donc les racines du mal sont essentiellement économiques et sociales, et des leaders djihadistes inspirés par Al-Qaïda ou par l'État islamique Daesh ont exploité cette situation de tension économique et sociale pour encadrer ces mouvements. Maintenant, vous avez par ailleurs, et indépendamment de ça au départ, un phénomène de tension interethnique dans certaines zones qui est dû simplement à une concurrence entre les pasteurs, éleveurs et les agriculteurs sédentaires. Traditionnellement, c'était plus ou moins harmonieux, il y a toujours eu des tensions quand même. Ces tensions se sont aggravées à cause de la pression démographique qui a augmenté, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de personnes qui vivent dans l'agriculture et dans l'élevage, et les terres sont devenues insuffisantes. Les parcours des pasteurs empiètent sur les zones agricoles, ça crée des tensions. Autrefois, ces tensions étaient moindres, je l'ai dit, mais aussi elles étaient arbitrées par les chefs traditionnels, par les élus locaux, ou éventuellement par l'État avec les sous-préfets. Il y avait les voilà. Et aujourd'hui, les djihadistes ont exploité ces tensions en tuant les autorités qui arbitraient ces conflits entre pasteurs et agriculteurs, et de sorte que les agriculteurs et les pasteurs s'affrontent sans médiation, sans arbitrage. J'ajoute à cela que les djihadistes ont favorisé les pasteurs par rapport aux agriculteurs et ont cherché à diffuser leur idéologie chez les peuls en particulier, donc une population de pasteurs, en exploitant le fait que les pasteurs étaient discriminés dans le Mali moderne, parce qu'ils n'étaient pas sédentaires, parce qu'il y avait des antagonismes traditionnels, et parce que les pasteurs au XIXe siècle dominaient, enfin les peuls dominaient le Mali au XIXe siècle. Donc ils ont perdu leur statut social, une bonne partie de leur statut social et de leur pouvoir. Le Mali était dirigé par des peuls, n'est-ce pas, que ce soit dans la région du Massina, ou que ce soit ensuite le djihad de El Hadj Omar Tall, c'était des peuls musulmans, soit de la Kadiria pour Seydou Amadou dans le royaume du Massina, soit de la Tidjaniya pour les peuls qui sont venus avec El Hadj Omar Tall à partir de 1840. Les autres sont venus un peu avant. Et donc, ils dominaient le Mali. Dans le Mali moderne, les Peuls ont perdu le pouvoir politique et ont perdu aussi le pouvoir économique. Donc, sont en situation de difficulté. Et plus la surpopulation, le développement de l'agriculture. Donc, les Peuls sont en crise, en fait. L'élevage est en crise. Et cette crise a été exploitée par les djihadistes. Les djihadistes ont pris le parti des Peuls, ont cherché à développer leur idéologie auprès des Peuls. Alors, tous les Peuls ne sont pas djihadistes et tous les djihadistes ne sont pas Peuls, mais néanmoins, il y a un peu cet amalgame qui est fait. Et aujourd'hui, les tensions interethniques sont aussi colorées par cette dimension islamique, parce que les populations sédentaires, je pense aux Bambara et aux Dogons, ont souvent formé des milices d'autodéfense sous le prétexte qu'ils étaient attaqués non pas par des éleveurs, mais par des djihadistes. Et donc, ils ont fait l'amalgame éleveur-djihadiste, et la situation a dégénéré, est un peu hors contrôle.
Les Peuls, c'est un peuple qui n'est pas présent uniquement au Mali, on en trouve dans d'autres pays d'Afrique.
On les trouve dans toute la région sahélienne, depuis même la Guinée jusque assez loin à l'est. En tout cas, ils sont assez présents au Niger.
Dogons, en revanche, eux, sont uniquement au Mali, sur les hauts plateaux.
Tout à fait, dans une région très localisée autour de Bandiagara, au Mali. Ouais.
Est-ce qu'on sait comment se financent les djihadistes? Parce que la guerre coûte cher. Pour acheter des armes, pour acheter des populations, il faut des finances. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a réussi à remonter? On a un peu une idée de...
Alors, on a des idées là-dessus. On n'a pas peut-être une maîtrise complète du phénomène, c'est-à-dire on ne peut pas décrire la part exacte de chaque origine et de chaque flux. Mais on sait, premièrement, que les djihadistes, dans les zones qu'ils contrôlent, perçoivent une sorte d'impôt qu'ils appellent l'impôt islamique. D'autre part, ils exploitent l'or artisanal ou ils contrôlent les zones d'exploitation d'or artisanal et ils perçoivent des taxes là-dessus aussi. On sait qu'il y a des prises d'otages qui ont quand même rapporté beaucoup d'argent, encore récemment. On estime qu'il y a eu au moins 150 millions d'euros ou 200 millions de dollars environ qui ont été perçus depuis une quinzaine d'années sur ces prises d'otages. Ils perçoivent aussi de l'argent de tous les trafics qu'ils organisent, n'est-ce pas ? Trafic d'armes, de drogue, de cigarettes, de migrants. Et enfin, dernière source de financement, ils reçoivent de l'argent de Daesh, du Moyen-Orient. Il y a des transferts financiers qui ont été démontrés. Pas seulement d'ailleurs des transferts financiers, des transferts en nature, c'est-à-dire en matériel et aussi en conseillers qui sont arrivés de Syrie, d'Irak et aussi de Libye pour aider matériellement et financièrement, le cas échéant, les différents groupes djihadistes. Donc il y a quand même un lien qui existe avec les centrales Al-Qaïda d'un côté et Daesh de l'autre.
Est-ce qu'ils ont des liens avec les frères musulmans en Égypte ou avec les islamistes d'Algérie ?
Alors, les frères musulmans, vous savez, c'est pas bien qu'ils soient classés groupe terroriste en Égypte, ils ne sont pas terroristes. Les frères musulmans sont des islamistes qui veulent prendre le pouvoir par la voie légale. Voilà. Et on l'a vu en Égypte, ils se sont présentés à des élections, ils ont gagné les élections, n'est-ce pas ? Et c'est ensuite qu'ils ont été chassés du pouvoir par un coup d'État militaire. Et en Turquie, ce sont aussi un régime inspiré des frères musulmans qui est au pouvoir. Donc les frères musulmans ne sont pas du tout dans la voie terroriste. Cela étant, les fondateurs du djihadisme moderne, notamment Saïd Koutoub, est un ancien frère musulman. Donc ce sont des dissidences des frères musulmans qui ont théorisé le djihad au XXe siècle à partir du salafisme. Le salafisme, c'est une réforme moderne de l'islam qui date du XXe siècle, en réalité, même s'il s'agit de revenir, n'est-ce pas, aux origines supposées de l'islam. C'est une réforme moderne, moderne mais rétrograde, évidemment, qui se tourne vers le passé. Et ça n'entraîne... Le salafisme, il peut être quiétiste, il peut être politique non violent, ou il peut être politique armé. N'est-ce pas ? Il y a trois branches du salafisme. Et le salafisme armé a été théorisé par un dissident des frères musulmans qui était Saïd Koutoub, qui a été pendu en Égypte en 1966. Voilà. Mais les frères musulmans ne sont pas impliqués eux-mêmes dans le terrorisme. Alors en revanche, pour l'Algérie, bien sûr, au Mali, le djihadisme est venu d'Algérie au départ. Il est venu du GSPC, le groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui était impliqué dans la guerre civile dans les années 90 en Algérie, et eux-mêmes, c'était d'anciens combattants en Afghanistan, d'anciens combattants algériens en Afghanistan. Par exemple, Mokhtar Belmokhtar était un Algérien vétéran d'Afghanistan qui était installé au Mali et qui vivait dans les trafics de cigarettes. On l'appelait Mr. Marlboro, avant qu'il verse complètement dans le terrorisme. Aujourd'hui, il est mort, il a été tué dans les combats anti-djihadistes, parce que tous ces jeunes qui rejoignent les mouvements djihadistes, le problème, c'est que leur espérance de vie est très courte. La plupart meurent très jeunes dans les affrontements entre les djihadistes et les forces armées, voire les affrontements entre djihadistes, puisque les partisans de Al-Qaïda, qui sont le GNIM ou GSIM, le groupement pour la défense des musulmans et de l'islam, s'opposent à l'État islamique au Grand Sahara de Walid al-Sahraoui. Et donc, il y a des combats entre eux aussi.
Oui, ce point est important parce que on a parfois l'impression de raccourcir les choses en présentant une sorte de djihad international qui serait en lutte contre les pays d'Afrique ou contre l'Occident, alors qu'il y a des oppositions à l'intérieur même de ces courants, des luttes violentes et des assassinats de part et d'autre. Donc on n'a pas une uniformisation du djihad.
Tout à fait. Et même au sein de la branche Daesh, État islamique, il y a aussi des combats, puisqu'on l'a vu avec Boko Haram, n'est-ce pas ? Boko Haram a éclaté en deux morceaux qui se réclamaient tous les deux de Daesh. Le Boko Haram traditionnel et le Boko Haram actuel.
Le chef de Boko Haram a été assassiné il y a quelques semaines par le...
Justement, entre
les dissidents, oui.
Voilà, et entre eux, en dehors de cet assassinat récent, il y avait eu beaucoup d'éliminations entre eux. Et ça continue de se produire. Alors ça, c'est interne à chacun des mouvements. Mais au Mali, il se trouve que il y a vraiment les deux mouvements qui sont présents, qui sont en compétition. Le GNIM, qui est le mouvement rattaché à Al-Qaïda et qui est dirigé par Yad Aghali, est légèrement majoritaire, mais il fait pas beaucoup plus de la moitié des attentats ou des victimes. Et le IGS donc fait l'autre moitié. Alors il se distingue un peu parce qu'il y en a un qui est un peu plus radical que l'autre. Le IGS de Walid al-Sahraoui s'attaque davantage aux civils par rapport à l'autre qui s'attaque davantage aux militaires et aux représentants de l'État. Et il y en a un qui est un peu plus radical que l'autre parce qu'il vise plutôt à terroriser les populations justement en attaquant essentiellement des civils, tandis que le GNIM cherche plutôt à séduire les populations pour les attirer vers lui.
Alors que peut faire la France dans cet état-là de fait avec ses différentes composantes?
Bah écoutez, la France, elle intervient dans cette affaire parce que les armées sahéliennes, entre autres l'armée du Mali, n'est pas actuellement, et depuis un certain temps, depuis 2012, n'est pas en mesure de résister, de contenir et de repousser les djihadistes. Donc, vous le savez, le Mali a fait appel à la France en 2012, au moment où le Mali était coupé en deux et tout le nord du Mali était tenu par les djihadistes. Donc, Serval, qui est intervenu à partir de janvier 2013, a permis de réunifier le Mali, enfin avec des nuances, parce qu'il y avait en même temps un mouvement séparatiste qui a pris la ville de Kidal en otage. Et la question a été traitée par l'accord d'Alger qui prévoit la fin du séparatisme et un système d'autonomie de chacune des régions qui est censé faire disparaître la question séparatiste au nord. Donc normalement, le nord du Mali et le reste du Mali devraient être réunifiés par l'accord d'Alger dans un système de décentralisation, de régionalisation poussée. Mais la France, pour répondre à votre question, elle est là pour aider l'armée malienne et l'armée du Niger et du Burkina Faso, essentiellement, à résister et à contenir les djihadistes. Si vous retirez cette aide de Barkhane, à partir de 2014, l'armée française au Sahel s'appelle Barkhane. Et eh bien, tout ce qui se passe est très simple à voir et à comprendre. Les principales villes du Mali, et sans doute du Niger ensuite et du Burkina Faso, tomberaient aux mains des djihadistes. Et finalement, les djihadistes s'empareraient du pouvoir au Sahel, comme ils l'ont fait, n'est-ce pas, de 1996 à 2001 en Afghanistan, où ils avaient pris Kaboul. Les talibans avaient pris Kaboul pendant plusieurs années jusqu'à que les Américains les en chassent. Alors pour éviter la répétition de ce type de scénario, c'est-à-dire l'instauration d'une dictature totalitaire, islamiste et rétrograde au Sahel, il y a un volet militaire qui est de contenir et de repousser ces groupes djihadistes. C'est ça que fait l'armée française. Bien entendu, on ne peut pas gagner la guerre contre les djihadistes, il s'agit simplement d'éviter de la perdre. Perdre la guerre, ça veut dire que ces djihadistes prennent le pouvoir. Ne pas gagner la guerre, ça veut dire les empêcher de prendre le pouvoir, et ça donne un intervalle de temps pendant lequel les États sahéliens peuvent traiter les racines du mal. Les racines du mal, c'est peut-être l'explosion démographique, c'est le désespoir de la jeunesse qui n'a pas d'emploi, c'est l'absence de l'État dans les zones rurales, donc il faut créer des services publics au bénéfice de la population, il faut que l'État également soit apprécié de la population. Voilà, donc c'est ça les principales tâches pour traiter les racines du mal. Il y en a d'autres, il y a l'aspect religieux, il faut dénoncer les dérives religieuses, etc. Il faut déradicaliser les jeunes, leur proposer une alternative, etc.
Et ça, c'est pas du ressort de l'armée,
c'est du ressort politique. Pas du ressort de l'armée. Ça, ce sont les volets civils de la lutte anti-djihadiste. Malheureusement, ces volets ne sont pas très développés. C'est-à-dire que lorsque Barkhane libère des territoires, chasse les djihadistes, l'administration malienne ne prend pas le relais pour l'instant, parce qu'elle n'a pas sans doute les moyens de le faire, et donc le territoire reste sans maître. Ça reste un Far West sans shérif, et à ce moment-là, les groupes djihadistes peuvent revenir, et la population se trouve de nouveau abandonnée.
Parce que vous faites la comparaison avec l'Afghanistan, mais Joe Biden a annoncé le retrait des troupes américaines, et on voit bien que le risque, c'est que l'Afghanistan revienne comme en 2001, donc avant l'intervention américaine. Et est-ce que au Mali et au Sahel de manière générale, avec la fin de Barkhane, est-ce qu'on va pas revenir comme en 2012
La fin de Barkhane, c'est la transformation de Barkhane. C'est pas du tout la même chose qu'en Afghanistan avec les Américains. Le président Macron n'a absolument pas dit ce que les États-Unis ont dit au sujet des talibans. Parce que les États-Unis, premièrement, ont négocié directement avec les talibans dans le dos des autorités afghanes. Et ils ont dit ensuite aux talibans « arrangez-vous avec les autorités afghanes une fois que l'essentiel de la négociation était terminé ». Et ensuite, les Américains ont dit « suite à notre négociation avec les talibans, on se retire ». Donc, ils ont livré le pays aux talibans, c'est clair. Voilà. Donc, et les talibans, effectivement, sont en train de reprendre le pouvoir progressivement en Afghanistan. Alors, on est dans un schéma qui n'a rien à voir avec ça, puisqu'il ne s'agit pas de retirer l'armée française du Sahel. Tant que les autorités de ces pays le souhaitent, l'armée française restera au Sahel. Il s'agit de transformer Barkhane. Barkhane avait un certain nombre de problèmes, de difficultés, d'échecs dont il faut tenir compte. Là, il y en a deux en particulier. Le fait que Barkhane opérait trop séparément des armées locales, trop unilatéralement, c'était mal compris et mal perçu. Et d'autre part, le fait qu'il y avait une trop forte visibilité étrangère française de l'ancienne puissance coloniale. Donc il faut traiter ces deux problèmes. Donc il faut coopérer davantage avec l'armée malienne. En dernier ressort, c'est l'armée malienne, les armées locales qui assureront la survie et la défense du pays. Donc il faut garder en tête cet objectif. Donc l'objectif est de rendre performantes les armées locales. Et donc Barkhane va se développer sous forme de coopération et d'hybridation avec les armées locales en apportant une aide matérielle, une aide en renseignement, une aide en restructuration de l'armée, etc. Donc ça, c'est l'aspect hybridation-coopération. Et puis l'aspect moins visible, c'est le renforcement du caractère multilatéral européen avec Takuba, donc cette force constituée par des unités, des forces spéciales de différents pays européens. On va mettre l'accent là-dessus. Donc ça ne sera plus le drapeau français, ça sera les drapeaux des différents contingents qui sont assez nombreux de différents pays européens. Donc il faut sortir un peu de ce tête-à-tête franco-malien ou franco-sahélien pour élargir la coopération. Parce que la France, dans cette affaire, défend des intérêts qui sont sahéliens et européens, n'est-ce pas ? Parce que si les djihadistes prennent le pouvoir au Sahel, il y aura deux impacts. Premièrement, localement, cette dictature dont je parlais, qui va être extrêmement brutale. On l'a vu ailleurs, c'est pas un schéma théorique. Et d'autre part, une fois les djihadistes au pouvoir au Sahel, il y aura un impact en Europe. Pour l'instant, il n'y a pas d'impact en Europe. Mais il y a une diaspora sahélienne très importante en Europe. Elle resterait en contact avec les autorités des pays sahéliens. Si ces autorités deviennent djihadistes, ils tenteraient à ce moment-là d'influencer la diaspora et d'utiliser une partie de la diaspora pour faire des attentats en Europe. Donc ce schéma qui n'existe pas actuellement, qu'on a vu en revanche du temps de Daesh en Irak et en Syrie, hein, qui fonctionnait avec la diaspora née en France souvent, mais quand même restée en lien avec les pays arabes, il se produirait le même phénomène, c'est-à-dire que des éléments de la diaspora sahélienne en France serait sans doute instrumentalisée par les autorités djihadistes, s'il y avait des autorités djihadistes au Sahel, pour faire des attentats en France. Donc on fait de la prévention. Barkhane, du point de vue des intérêts franco-français ou européens, fait de la prévention au Sahel en empêchant les djihadistes de s'emparer du pouvoir.
C'est-à-dire que ce que vous dites, c'est que ce n'est pas un problème uniquement malien, mais ça concerne la France aussi, les Européens. Et c'est un problème à plusieurs échelles.
Voilà, c'est un problème à deux niveaux. Il s'agit quand même d'empêcher le Sahel d'être totalement déstabilisé. Alors, il faut voir aussi que tous les pays périphériques du Sahel, notamment les États côtiers africains, genre la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc., seraient déstabilisés aussi. Et naturellement, si les djihadistes s'emparaient du pouvoir à Bamako, à Ouagadougou, à Niamey, il y aurait un danger évident pour Abidjan et les autres capitales de la région. Donc ça, c'est l'aspect africain. Mais il y a un aspect européen, je vous le dis, le terrorisme serait exporté beaucoup plus facilement si les djihadistes s'emparaient du pouvoir en Afrique de l'Ouest.
Alors, c'est justement des sujets qu'on aborde dans le numéro de conflit qui est en kiosque. Cette Afrique du Golfe de Guinée, du Sénégal jusqu'au Gabon, on voit qu'il y a une descente du djihadisme. On a eu dans le nord de la Côte d'Ivoire des affrontements, il y a la zone des trois frontières au Burkina Faso, il y a le Nigeria avec la transformation de Boko Haram. On a l'impression que cette zone djihadiste, enfin c'est pas qu'une impression, est en train de descendre et donc risque de contaminer la zone du Golfe de Guinée.
Oui, tout à fait. Alors, au Nigeria, le phénomène est ancien, n'est-ce pas? Il est plus ancien que dans le Sahel, proprement dit. Ça date de 2007, n'est-ce pas? Et il y a aussi la Somalie, qu'il ne faut pas oublier, qui date de 2007, fin 2006. Donc, ça a précédé d'environ 6 ans ce qui se passe au Sahel. Et aujourd'hui, on observe aussi, en dehors de l'Afrique de l'Ouest, l'extension du djihadisme en Afrique centrale. Alors, pas pour l'instant en République centrafricaine, mais en RDC avec le mouvement ADF, qui est quand même le groupe le plus violent, le groupe armé le plus dangereux, le plus meurtrier. Et puis, au Mozambique, n'est-ce pas? Essentiellement, donc, aussi en Afrique australe. Mais pour revenir à l'Afrique de l'Ouest, il y a une expansion, on le voit bien, comme vous l'avez rappelé. Il y a eu plusieurs attentats au nord de la Côte d'Ivoire, plus un au sud de la Côte d'Ivoire aussi, il y a quelques années, sur la région côtière directement, et qui étaient entrepris par des Maliens, en l'occurrence, en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il y a une diaspora sahélienne très importante dans les États côtiers d'Afrique de l'Ouest. Aussi. Étant donné le manque de développement, le retard de développement dans le Sahel, étant donné que les régions côtières sont beaucoup plus développées, il y a une immigration très forte du Sahel vers les États côtiers. Alors, les djihadistes peuvent exploiter ces diasporas, et de toute façon, il y a une espèce de tendance à l'expansion des populations sahéliennes vers les zones périphériques.
Vous évoquez la Centrafrique. Un des faits un peu nouveaux ces dernières années, c'est la rivalité avec la Russie, qui a été parfois assez virulente, notamment sur l'usage de certains réseaux sociaux. Mais on voit que la Centrafrique devient une pomme de discorde entre la France et la Russie.
Alors, c'est pas la Centrafrique qui est une pomme de discorde entre la France et la Russie au départ. Au départ, il y a une tension entre les pays européens et la Russie à cause de l'évolution du régime de Poutine, à cause de l'annexion de la Crimée, le soutien des séparatistes dans le Donbass en Ukraine, à cause aussi des assassinats d'opposants politiques russes dans les pays européens, surtout en Grande-Bretagne. Voilà. Donc ça a créé des tensions et des sanctions. Il existe des sanctions européennes contre la Russie qui sont gênantes pour la Russie. Et d'autre part, la Russie, vous le savez, a développé aussi une idéologie anti-occidentale basée sur le traditionnel nationalisme, le rejet de l'universalisme individualiste, etc. Et donc, il existe ces tensions indépendamment de la Centrafrique. Alors, il se trouve que en Afrique, la Russie utilise ce qu'elle peut pour contrer les intérêts européens. Alors, avant de parler de la Centrafrique, on voit bien qu'au Mali, il y a des propagandes, il y a des vidéos, la désinformation contre la présence française, Barkhane, etc., qui est très développée. On a vu aussi à Bamako des manifestations pro-russes, anti-françaises, avec des drapeaux russes, etc. Bon, les Russes n'ont pas l'intention, apparemment, de venir au Sahel, parce que il n'y a pas grand-chose à tirer économiquement pour eux d'un tel effort. En revanche, en Centrafrique, c'est un pays très peu peuplé qui regorge de richesses, n'est-ce pas ? Les groupes armés qui sont en Centrafrique ne sont pas là pour des raisons idéologiques, ils sont là pour exploiter des richesses. Il y a des groupes qui exploitent le diamant, il y a des groupes qui exploitent l'or, et il y a des groupes qui exploitent le bétail. Alors, les Russes ne sont pas arrivés avec une aide militaire comme la France, une aide gratuite. Ils sont arrivés avec des mercenaires. Les mercenaires, il faut les payer.
Et les mercenaires, comme Wagner notamment.
Wagner, du groupe Wagner. Et ces mercenaires, ils se payent en s'associant à des groupes armés, en connivence évidemment avec les autorités de Bangui, pour exploiter directement des richesses. Donc, ils se payent en nature, en diamants et en or. Parce que ils exploitent ça en même temps que les groupes armés. Voilà. Donc, alors c'est vrai qu'ils assurent la sécurité du régime. Le régime est lui-même, le régime du président Taoudera est lui-même, ça a été dit publiquement même par le président de la République française, est lui-même en connexion avec ces groupes mafieux et avec les mercenaires russes. Donc ensemble, ils exploitent et ils pillent les richesses de la Centrafrique. Donc c'est la raison pour laquelle la France se retire de Centrafrique, parce qu'on ne coopère pas avec un régime de ce type qui ne répond pas à des normes de bonne gouvernance. Et les Russes, eux, n'ont pas ces scrupules de démocratie et de bonne gouvernance, et au contraire favorisent le groupe Wagner, donc des mercenaires qui exploitent les richesses locales.
Et l'autre fait nouveau également, c'est la venue de la Chine, qui alors là aussi sur des sujets économiques ou pour des questions de prêts ou de création d'infrastructures dans les pays africains.
Alors, la Chine est présente sur le plan économique depuis un certain nombre d'années, mais c'est assez récent, en gros depuis 2010, qu'elle a développé une présence diplomatique et politique en Afrique, puisqu'il y a des instituts Confucius aussi maintenant qui se créent, c'est-à-dire également un software, un pouvoir d'influence qui se développe avec des chaînes de télévision aussi, et donc une volonté, non pas de promouvoir le modèle chinois parce qu'il est difficile à exporter quand même, mais au moins de donner une image positive de l'action de la Chine. Cela étant, l'action de la Chine en Afrique, elle est essentiellement économique. Donc, il y a une complémentarité très grande entre l'Afrique et la Chine. La Chine est très développée, enfin assez développée, et a besoin de matières premières pour son industrialisation rapide. Et l'Afrique regorge de matières premières et n'a pas d'industrie. Donc, il y a cette complémentarité qui est très forte. D'autre part, l'Afrique est un marché pour les produits d'exportation chinois. C'est devenu le premier partenaire commercial de la Chine, et la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Donc il y a une complémentarité. Alors, ce qui est nouveau, c'est cette présence politique. Alors ça a commencé par une présence dans les opérations de maintien de la paix. Beaucoup de casques bleus sont chinois maintenant, ce qui est tout à fait nouveau en Afrique. Donc il y a des Chinois dans la MINUSMA au Mali, dans la MINUSCA en Centrafrique, et dans la MONUSCO au Congo RDC, et on voit bien que maintenant les Chinois essayent d'avoir une influence aussi. Mais ils n'apportent aucune aide au développement proprement dit, sauf un certain nombre de dons en grandes infrastructures très visibles. Ça a commencé par les bâtiments de l'Union africaine à Addis Abeba, et un certain nombre de stades et de bâtiments administratifs sont offert par la Chine, mais pour l'essentiel, leur aide, entre guillemets, ce sont des prêts qu'il faut rembourser. Donc, ils sont très présents dans le secteur des infrastructures, mais en faveur des entreprises chinoises, puisqu'il s'agit de prêts.
Et donc, si les pays ne peuvent pas rembourser, c'est ensuite
Alors, quand
une question chinoise.
il commence à se poser un sérieux problème de remboursement de la dette chinoise, il faut rappeler que les pays occidentaux ont annulé leurs dettes vis-à-vis des pays pauvres africains, des pays même à revenus intermédiaires africains. Donc, les pays africains se sont réendettés auprès de la Chine. Alors, cette question commence à se poser, c'est-à-dire que il y a des cas où la Chine a signé des contrats où ils sont payés en nature, c'est-à-dire le pétrole de l'Angola, les matières premières de la RDC, je vais dire des minerais, sont exportés directement pour payer la dette. Donc, alors c'est quand même un appauvrissement pour ces pays puisqu'ils ne reçoivent pas de recettes, ça sert à payer la dette. Et dans certains cas, la Chine s'empare des infrastructures qu'elle a financées. Ça s'est vu surtout au Sri Lanka, je crois, en Asie. Ça pourrait se voir en Afrique. Donc, il peut y avoir des tensions. Donc, c'est un problème qui va se présenter surtout pour l'avenir. Donc, la Chine aura le choix entre annuler sa dette ou gérer des tensions.
Ce qui est finalement, elle va être confrontée au même problème que la France.
Elle sera confrontée au même problème que la France. Sauf que la France, il n'y avait pas vraiment de tension. C'était en fait plutôt une incapacité des pays à nous rembourser.
Et dans ces rapports entre Russie, Chine et France, quels pourraient être pour l'avenir les avantages de la France ou les atouts de la France? On a l'impression que sur un certain nombre de sujets en Afrique, celle-ci est en recul, voire en rejet même de la part des populations avec des manifestations anti-françaises. Est-ce qu'on a encore des atouts à jouer dans la région?
Alors, moi, je ne vois pas tellement l'Afrique comme un terrain de confrontation et d'influence entre les puissances. Je pense que l'importance n'est pas cela. L'important, c'est que les pays africains choisissent les meilleurs partenaires. Voilà. Et donc, c'est une bonne chose que les partenaires russes, chinois, européens, américains ou autres, turcs aussi, il y a l'Inde, il y a la Turquie, il y a d'autres partenaires. Il est important que ces partenaires soient présents dans les pays africains et soient en compétition les uns avec les autres. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que ça favorise le développement de l'Afrique et tout le monde est bénéficiaire si l'Afrique se développe, y compris les entreprises françaises, in fine. Donc cette multiplication des partenariats est une bonne chose. Il faut pas le voir sous la forme d'une lutte d'influence. Ça, c'est une logique de guerre froide. Alors, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers comme la Centrafrique où les Russes cherchent à se venger de l'Europe en utilisant le terrain africain, mais c'est un cas particulier. Normalement, la multiplication des intervenants en Afrique est quelque chose de bénéfique pour les Africains parce que ça leur offre plus de choix et plus de possibilités. Alors, pour revenir à votre question, la France, elle a des atouts, mais qui doivent se mettre dans cet ensemble. C'est-à-dire, il faut que les entreprises françaises soient les mieux offre le plus de services pour être choisi. Si ce n'est pas le cas, c'est normal et je dirais que c'est une bonne chose qu'elle ne soit pas choisie. Les pays africains doivent prendre le meilleur. Voilà. Alors maintenant, ça c'est l'aspect économique. Il y a aussi l'aspect aide publique au développement. L'aide publique au développement, elle est nécessaire, je dirais malheureusement, dans le cas des pays les plus pauvres pour financer tout ce qui ne peut pas l'être par l'économie, c'est-à-dire certaines infrastructures. On ne peut pas emprunter pour rembourser pour des routes qui ne génèrent pas de recettes. Les écoles, ça génère pas de recettes. Les écoles publiques, normalement, les services de santé, etc., ça génère pas beaucoup de recettes. Et donc, il y a besoin d'aide au développement aussi pour préserver l'environnement, etc. Il y a besoin d'aide au développement. La France est un des principaux bailleurs de fonds en matière d'aide au développement, mais c'est plus encore l'Europe aujourd'hui. L'Union européenne est vraiment le premier bailleur de fonds. Donc, les Russes sont absents de ce secteur, ils donnent zéro en aide au développement. Les Américains sont moins présents que les Européens et que les Français. Voilà, donc les atouts de la France, si vous voulez, c'est ses entreprises, sa connaissance du terrain et le fait qu'elle donne beaucoup d'aide au développement. Mais l'aide au développement n'est pas liée à l'économie, hein. C'est une aide. Par exemple, quand la France fait un don de 10 millions d'euros au Mali, le Mali a le droit d'utiliser cet argent pour faire appel à une entreprise chinoise. C'est tout à fait autorisé par la France, hein. Ça s'appelle l'aide déliée. L'aide n'est pas liée. L'argent qui est donné ou les projets qui sont aidés ne sont pas nécessairement ceux du bailleur de fonds.
C'est-à-dire que l'argent du contribuable français sert à financer des entreprises chinoises.
Absolument. C'est tout à fait admis, mais c'est une règle qui a été décidée au sein de l'OCDE, c'est-à-dire c'est la même chose pour les Allemands et pour les Britanniques ou autres. Chacun donne une aide au pays africain qui est libre de choisir l'entreprise qui va réaliser le projet. Par exemple, s'il faut construire un barrage, la France va aider, mais le barrage sera construit par une entreprise chinoise. Voilà. C'est admis aujourd'hui. Alors les Chinois ne pratiquent pas ça. Les Chinois, eux, leur argent doit être forcément destiné à des entreprises chinoises. Parce qu'ils ne sont pas dans l'OCDE, ils ne se sont pas imposés cette contrainte.
L'autre élément, et ce sera la dernière question si on arrive au terme de cet entretien, mais un des problèmes, c'est la corruption ou la connivence. On voit bien le choix d'entreprise dans un marché libre avec des règles anti-corruption, justement, et des sanctions s'il y a la corruption qui est là. Dans un cas de ces pays où ces règles n'existent pas, comment peut-on faire pour éviter soit qu'il y ait un détournement de l'aide publique au développement, soit qu'il y ait une corruption qui empêche le choix des meilleures entreprises possibles?
Alors, lorsqu'il y a une aide européenne ou occidentale, en général, on a quand même un droit de regard sur les procédures d'appel d'offres. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait un respect de la concurrence. Donc, on ne donne pas de l'argent pour être détourné en faveur éventuellement d'une entreprise chinoise. En revanche, lorsqu'une entreprise chinoise arrive, elle peut proposer des emprunts, des prêts, et là, il n'y a pas appel à la concurrence, hein, puisque l'aide chinoise est liée. Et donc, ça revient pour le pays africain à payer plus cher l'infrastructure financée par un emprunt chinois. Les pays africains se laissent quand même séduire. Pourquoi? Parce que l'entreprise chinoise arrive et dit « vous vous occupez de rien, je m'occupe de tout ». Donc il n'y a pas de procédure d'appel d'offres très compliquée, il n'y a pas besoin de choisir plusieurs entreprises. L'entreprise chinoise arrive avec ses financements, construit tout et s'occupe de tout. Alors au total, ça coûte plus cher au pays parce qu'il n'y a pas de concurrence. Mais le service est rendu, hein. C'est un service tout fait, si vous voulez, c'est du prêt à porter, mais il n'y a pas d'appel à la concurrence et c'est plus cher.
Bien, merci beaucoup, Nicolas Normand, d'avoir évoqué pour nous le conflit, le Mali et cette région de l'Ouest africain. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de France au Mali, que vous êtes actuellement chercheur associé à l'IRIS, et puis vous pouvez également retrouver le numéro d'été de conflit qui est consacré à l'Afrique de l'Ouest et aux connexions entre les djihadistes et les narcotrafiquants, et notre numéro spécial de la géopolitique de la santé qui est toujours en kiosque et que vous pouvez également retrouver sur notre site internet revueconflit.com. Merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt.